Bonjour à tous, Jonathan Sivoni, je suis CEO de LuxuryInsight.com et ravi aujourd'hui de lancer cette nouvelle série de podcasts LuxuryInsight en partenariat avec FashionNetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Bénédicte Épinay, qui est déléguée générale du comité Colbert. Après une brillante carrière dans les médias, ayant entre autres participé à la création de séries limitées et présidé au Destin des Échos Weekend, Bénédicte va nous partager sa vision du luxe aujourd'hui et comment le comité Colbert aide à son rayonnement. Alors, très belle journée et bon podcast.
Dans ce podcast Luxury Inside Fashion Network, nous accueillons aujourd'hui Bénédicte Épinay. Bénédicte Épinay a été nommée déléguée générale en mars dernier du comité Colbert. Le comité Colbert réunit une centaine d'acteurs du luxe français mais aussi européen. Précédemment, Bénédicte Épinay a eu une carrière dans le journalisme, principalement aux Échos, où elle était directrice déléguée des rédactions en charge des suppléments séries limitées et des Échos Week-end. Puis en 2016, elle a pris la direction générale du pôle luxe de Pelham Media, qui réalise le brand content du groupe Les Échos, le Parisien. Bénédicte Épinay, bonjour.
Bonjour Olivier.
Merci de nous rejoindre dans ce podcast. Quand on a préparé cet entretien, vous m'avez envoyé un petit mot en m'expliquant que toute votre carrière, en fait, vous a préparé à prendre cette position de délégué général du comité Colbert. Ça veut dire que dès toute petite, vous aviez cet univers du luxe, des savoirs créatifs dans votre horizon ?
Pas du tout. Alors, c'est pas des toutes petites, c'est vraiment, quand je dis, c'est ma carrière professionnelle qui m'a préparée à prendre ce poste. 30 ans dans les médias, donc, et effectivement, 30 ans à couvrir divers secteurs industriels, donc en tant qu'observatrice de ces secteurs. J'ai commencé, alors ça va peut-être vous faire sourire, mais à couvrir aux Échos, quand je suis entrée aux Échos, j'ai commencé par couvrir l'agriculture.
D'accord.
De l'agriculture, je suis passée à l'industrie agroalimentaire. De l'industrie agroalimentaire, je suis passée à couvrir toute la consommation des ménages. Et puis, se sont agrégés ensuite l'industrie textile, tout ce qui était retail à une époque passionnante parce que c'était la grande époque d'expansion internationale des retailers français, dont on ne connaît plus les noms aujourd'hui, mais les Euromarchés, les Promodès.
Ça voilà. S'est totalement concentré.
Exactement. Et c'était une période formidable à suivre parce que c'est cette grande époque d'expansion en Chine, aux États-Unis, en Europe d'abord. Donc c'était une époque passionnante à suivre. Et puis ensuite, j'ai fait un petit pas de côté aux Échos où j'ai lancé. Alors ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui, ça fait toujours un peu dinosaure de raconter ça. Mais à l'époque, dans les Échos, là on est début des années 90, il n'y avait pas de page d'enquête. Dans les Échos. Aujourd'hui, ça paraît courant de le
c'était
dire.
C'était des portraits
c'était,
d'entreprise, mais pas
de l'actualité, ouais. Chaude, mais il y avait pas cette idée que on prenait ce recul ou on prenait une focale différente pour analyser l'actualité. Donc, j'ai fait partie du premier pool de grands reporters qui ont été nommés, et donc voilà, j'ai fait ce petit pas de côté pour m'intéresser à des sujets plus larges.
Votre horizon, en fait, c'était le journalisme.
Moi, ça a été le journalisme. Oui, ouais. Voilà, ça c'est clair. C'était le journalisme, et c'était même le journalisme aux Échos.
Aux Échos.
C'était aux Échos. Pourquoi c'était une lecture de mon père.
D'accord.
Et ça m'a toujours fascinée, cette passion qu'il avait pour ce quotidien, qu'il lisait avec grande attention le matin, qu'il reprenait le soir en revenant du travail. Mon père était un cadre dirigeant à l'EDF. Et je voyais que ce titre, visiblement, lui apportait beaucoup de satisfaction. Donc, je ne sais pas si c'était pour faire plaisir à mon père. En tout cas, on ne va pas y chercher d'explications psychologique, mais en tout cas, il y avait le journalisme au départ, et puis du coup, je me suis dit, mais journalisme dans les Échos, ça a l'air d'être quand même sacrément intéressant, parce que les lecteurs ont l'air d'être très assidus, si j'en juge par, en tout cas, l'image que m'en renvoyait mon père. Donc ça a été les Échos, très vite, et puis après, la vie a fait que ça n'a pas été possible tout de suite, que les Échos n'engageaient que des journalistes expérimentés. Comme tout journaliste débutant, j'ai fait un petit peu mes classes de pigiste, et puis ensuite, je suis rentrée à France Soir, qui était encore une grande époque de France Soir, parce que c'était encore, donc là, on est au début des années 80, et c'était encore une époque où France Soir avait plusieurs éditions quotidiennes. Là encore, ça paraît dingue de raconter ça aujourd'hui.
Ça ne se fait plus.
Mais on avait une édition de 8h, une édition de 10h, une édition de début d'après-midi. Il y avait encore dans France Soir quelques grands journalistes qui avaient connu Pierre Lazareff. Donc je me suis nourrie quand même à ces gens-là, et même si ce que j'ai fait à François était très loin de ce que je voulais faire, puisque je faisais des infos gênées, donc les faits divers, c'était très loin de ce que j'ambitionnais, malgré tout ça a été extraordinaire, et si c'était à refaire, je le referais avec le plus grand plaisir. Donc voilà, et puis j'ai eu une petite fenêtre de sortie pour rentrer aux pages saumon du Figaro.
Oui.
Et puis ensuite, étant aux pages saumon du Figaro, on va dire que là, un peu la voie vers les Échos s'ouvrait quand même plus facilement. Et donc voilà. Et donc ça s'est fait effectivement au milieu des années 80.
Quel est le ton dans les rédactions? Quels sont les sujets phares? On sait que ça a évolué. Hein, les éléments clés dans les Échos.
Il y avait certainement beaucoup plus à l'époque. Alors déjà, je vous montrerai aujourd'hui. Les Échos de cette époque-là, il n'y avait pas d'image du tout. Donc ça faisait vraiment journal du XVIIIe siècle. Enfin, tous les journaux étaient comme ça, hein, à l'exclusion du Figaro qui avait des images, le Parisien libéré encore à l'époque, et François, il y avait des images. Le Matin de Paris aussi, il y avait des images. Mais la presse économique n'avait pas d'images. Et surtout, personne n'en voyait l'intérêt.
Oui.
Donc c'était très rude comme lecture. Hein.
C'était aride. On parlait des chiffres et de la
ce qu'on appelle un quotidien gris. Hein. C'est que, voilà, on était tout noir. Hein. Et c'était assez peu, par rapport à aujourd'hui, c'était beaucoup plus de macro, très peu de micro, beaucoup plus d'informations, effectivement, de politique française, économique, de politique internationale, et beaucoup moins d'entreprises. Les choses se sont quand même pas inversées, parce qu'aujourd'hui, on est à peu près à moitié-moitié, mais il y a aujourd'hui une vraie part prise par les entreprises qui communiquent.
Et donc, dans les années 90, vous disiez, début des enquêtes.
Oui, début de cette prise, en fait, début de cette réflexion de se dire, finalement, on a des lecteurs qui, certes, sont intéressés par avoir une vision au quotidien de cette actualité chaude, mais on pourrait aussi s'intéresser à leur donner ce recul. Les news n'étaient pas naissants, puisque l'Express était lancé dans les années 50, mais on s'est pris au jeu de se dire, on va aller sur ce chemin-là.
Et le faire, justement, avec un propos économique.
Exactement. Et donc, ça a très bien marché, parce que c'était une double page qui n'était pas quotidienne parce qu'on n'était pas assez nombreux pour produire et on avait encore ce luxe à l'époque que peu de journaux ont aujourd'hui de se dire je me mets sur un sujet. J'ai par exemple un sujet en tête qui m'avait pris pas mal de temps, qui était titré « Existe-t-il encore un ascenseur social en France ?» Et ben, on avait du temps pour faire cette enquête. Voilà, le temps qui nous manque tant aujourd'hui.
Oui, oui.
Mais s'il m'avait fallu un mois pour faire cette enquête, je l'aurais eu.
C'était possible.
C'était possible.
Aujourd'hui, on voit que c'est effectivement
beaucoup plus compliqué.
Peut-être des journaux étrangers qui peuvent le faire sur
certainement,
des phénomènes de société.
C'est quand même plus compliqué. Voilà, on avait encore, les équipes étaient pléthoriques, on avait du temps, il n'y avait pas quand même cette course à l'info qu'ont apporté les chaînes d'info continues. Donc, on avait quand même ce confort de se dire, on peut s'installer sur un sujet. Voilà. Et donc, à l'issue de ces deux années passées sur les enquêtes, une fois que ça a été lancé et que ça a bien marché, on m'a demandé si ça m'intéressait de m'occuper de l'industrie du luxe. J'ai dit, pourquoi pas.
Quelle était la part, justement, à la fois dans les médias et puis finalement dans l'imaginaire collectif à cette époque-là du luxe?
Très peu.
On en parlait très peu.
On en parlait très peu parce que il faut bien se remettre dans l'idée de l'époque, et ça, je pourrais vous en dire tout à l'heure un mot quand on parlera du comité Colbert, c'est qu'à l'époque, les grandes marques ne sont pas du tout internationalisées. Du tout, du tout. Vuitton est encore une petite marque de maroquinerie française. Enfin, ça paraît bizarre de se dire ça aujourd'hui, oui. Mais on est très très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui.
C'est vraiment les prémices de la construction des grands groupes.
Oui. On n'est pas du tout encore même dans cette idée de verticalisation. On est encore dans cette époque de licence à tout va. Donc, on est vraiment très, 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 très loin du schéma d'aujourd'hui.
Et vous, qu'est-ce qui vous a attiré quand on vous a dit, tiens, le luxe, est-ce que
je
ça
me suis dit, pourquoi pas? Parce que je me suis dit, après avoir compris, analysé la consommation des ménages, vu la stratégie cette stratégie d'expansion des retailers français, je me suis dit, c'est bizarre ce secteur qui est encore un peu confidentiel. Ça m'intéressait. voilà, c'était plutôt, ça m'intriguait.
Ouais. Et puis vous qui aimiez les histoires, les enquêtes,
voilà,
là, il y
avait. Je me suis dit, là, il y a quand même de très belles histoires, des très grandes marques, et je ne comprenais pas pourquoi ça n'avait pas encore pris cette expansion. Donc voilà, donc ça m'a intéressée.
Et vous êtes tombée au bon moment.
Et je suis tombée pile au bon moment.
Les années 90, ça a été.
Parce que je suis arrivée, moi, quelques mois, alors je ne sais plus vous dire exactement, mais très peu de temps après, il y a eu la bataille pour le contrôle de Gucci.
Oui.
Et là, je dois
Qu'est-ce
dire...
Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez un peu.
Ça a été un feuilleton extraordinaire parce que moi, j'ai quasiment écrit tous les jours dans les Échos sur cette bagarre. Il y avait tous les jours, je veux dire, j'avais les avocats des deux parties tous les jours, j'avais Bernard Arnault tous les jours, j'avais François Pinault tous les jours, j'avais Domenico Dessolé tous les jours au téléphone. Je veux dire, c'était un truc absolument palpitant.
Et c'est passionnant parce que ça ancre encore les grandes rivalités du luxe d'aujourd'hui.
Ouais, complètement. Donc c'était une bagarre et puis ça, voilà, ça présageait un peu ce qui pouvait se passer, cette espèce de bagarre féroce pour le contrôle d'une marque qui n'était pas elle non plus encore très internationalisée. C'était très intéressant à suivre.
Sur cette période-là, est-ce que vous avez des rencontres, des moments clés, soit des journalistes, soit des patrons d'entreprise qui vous ont marqué, des choses qui ont été très fortes dans
votre carrière? Alors, les premiers grands patrons qui m'ont marqué, il y en a eu certainement dans le luxe, mais les tout premiers qui m'ont marqué, c'est dans ma période grande distribution, retailer.
D'accord.
J'ai malheureusement plus les noms en tête, mais les grands patrons de ces grands groupes de l'époque, il y en a un évidemment qui m'a marqué, c'est Gérard Muliez, avec lequel j'ai eu la chance de faire des visites d'hypermarché qui me restent mémorables, parce que je me souviens avoir fait une tournée avec lui dans le Grand Nord, autour de son siège social.
Dans son fief.
Et visiter, je vous assure que visiter un hypermarché au champ, puisque c'est son enseigne, avec le fondateur, Gérard Muliez, c'est un truc qui est juste extraordinaire.
Pourquoi? Parce que vous comprenez
Vous comprenez tout de suite. Ouais. C'est-à-dire que cet homme-là, d'abord, était capable de vous prénommer chacun des salariés du magasin, d'avoir éventuellement une petite anecdote, se souvenir que le mari ou que la femme a été malade, que l'enfant s'est cassé une jambe, que, je veux dire, à l'époque, il avait, j'ai pas le chiffre en tête, mais il avait déjà probablement peut-être 100 hypermarchés. Alors celui-ci était proche de son siège social, mais malgré tout, une proximité incroyable avec les salariés, et puis un œil pour repérer que la boîte de petits pois, elle ne devrait pas être là, qu'elle n'est pas bien disposée, que la tête de gondole, ça ne va pas, il y a un truc qui cloche, que...
Donc le vrai détail du commerçant,
ouais,
en fait.
Ouais, ouais.
Mais bien que ce soit un très grand patron, le vrai détail de...
Et je l'ai retrouvé, cet œil-là, je l'ai retrouvé quelques temps après, dans ma toute première rencontre avec Bernard Arnault. Alors ça va vous faire sourire, je pense que je le peux raconter, parce qu'il y a... Il y a prescription, je vais dire. Mais quand on m'a dit, donc quand j'ai pris le luxe et qu'on m'a dit tu vas rencontrer Bernard Arnault, je me dis bon, alors là j'ai un problème parce que j'ai rien à me mettre. Et comment est-ce que je vais m'habiller pour rencontrer le patron de ce premier groupe de luxe? Et j'ai appelé ma mère et je lui ai dit écoute, voilà, je rencontre Bernard Arnault, donc je lui ai dit qui est cet homme-là. Et je lui ai dit il faut évidemment que j'arrive bien habillée à ce rendez-vous. Et j'ai dit je suis un peu inquiète. Et maman me dit t'inquiète pas, je te prête mon beau sac. Et son beau sac, c'était un Kelly de chez Hermès. Donc je suis très fière d'arriver à ce rendez-vous avec mon Kelly Hermès. Et c'était très peu de temps après, enfin, qui n'était pas mon Kelly, qui était celui de ma mère, en l'occurrence, et ça arrivait très peu de temps après le lancement du Lady Dior. Et Bernard Arnault m'a vu arriver au bout du couloir, et je le revois tout de suite me disant « Mais pourquoi vous portez un Kelly de chez Hermès ?» Et on a parlé pendant une heure de sac à main. Il était, alors je lui ai raconté très vite que c'était pas mon sac, que c'était le sac de ma mère, que je voulais faire bonne impression et que, bon, visiblement c'était raté parce que...
Il attendait autre chose potentiellement.
Je sais pas, enfin, il était peut-être vexé que je n'ai pas un sac Dior, mais bon, j'avais pas les moyens de m'acheter un sac Dior, donc bon, voilà. Mais en même temps, on a eu une discussion et j'ai retrouvé un peu du Gérard Muliez, parce que j'ai découvert quelqu'un qui était très au fait de ce qu'une femme attend de son sac à main. Il a fait monter un Lady Dior du magasin Dior qui était en bas. Ses bureaux étaient encore à l'époque au-dessus de chez Dior. Et nous avons regardé ensemble comment les poches à l'intérieur, vous voyez, là c'est pratique, je pense que pour les femmes, j'ai dit ouvert quelqu'un qui avait un sens, que moi je pensais voir un homme de chiffres, et je découvre un homme de chiffres, mais aussi un homme qui a
un regard sur le produit.
Mais incroyable.
Oui. Ça, a priori, c'est effectivement une des composantes qui ont fait le succès de son groupe.
Et on sait très bien aujourd'hui, quand il fait ce circuit de visite dans les magasins toutes les semaines, on sait qu'il a cet œil-là. On sait qu'il regarde dans les magasins, on sait qu'il interroge les vendeurs, on sait que, voilà, il est... Et je pense que ça aussi, c'est une composante du luxe aujourd'hui.
Oui.
Je veux dire, le luxe pourrait pas être sans ça, je veux dire, sans cette interaction...
Voilà. Réel entre le produit et l'aspect
Exactement,
vraiment business.
Ouais.
Justement, cette montée en puissance de luxe que vous avez connue, traitée, finalement, vous l'avez concrétisée aussi avec le lancement d'un supplément dédié au luxe. Vous avez progressé dans ce qu'on disait en introduction dans votre carrière jusqu'à devenir directrice déléguée des rédactions sur les suppléments et les séries limitées pour les échos, pour le week-end. Comment cette partie de luxe est devenue si importante finalement aujourd'hui? C'est assez rare qu'il y ait un journal qui sorte sans un papier sur une marque de luxe ou en tout cas de traiter de cet univers-là.
Oui, alors c'est vrai que Série Limitée, le lancement c'était 99, oui. Décembre 99. On s'est dit à cette époque, alors c'est pareil, ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui, mais assez peu de quotidiens avaient des suppléments hebdo à l'époque. Oui. Donc c'était un petit pari. Et d'ailleurs, je me souviens que j'avais été très vexée quand le patron de l'époque des Échos, à la soirée de lancement, avait dit c'est un one shot. Je me suis dit bon, bah c'est un peu vexant parce que moi j'espère bien que ce sera pas un one shot et que ça va faire un grand succès. Bon, bah l'histoire a prouvé que ça a été ça a bien fonctionné. Mais on l'avait lancé quand même au début en trimestriel, en se disant on va voir. Et en fait, très vite la mayonnaise a pris. Des deux côtés, du côté lecteur et du côté annonceur. Du côté lecteur, l'idée, c'était de se dire, ça va être un magazine, certes luxueux, mais dans lequel on va quand même avoir ce regard un peu business. Donc, vous ne serez pas totalement perdu. C'était un peu l'idée de départ. Les choses ont un peu évolué depuis, avec le temps. Mais en tout cas, c'était moi l'idée que j'en avais au début, quand Nicolas Bétou m'en a chargé. Je lui ai dit, on va faire quelque chose de très art de vivre, mais avec quand même un petit côté business-minded dans un coin de ma tête. Et donc, les lecteurs ont tout de suite adhéré. On a en plus eu ce grand format qui n'était pas une idée qu'on a sortie de notre chapeau. En fait, à l'époque, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est que les Échos étaient à l'époque filiales du Financial Times. Et le Financial Times avait ce magazine formidable qui existe toujours, qui s'appelle How to Spend It. Et How to Spend It était déjà sur un grand format que celui-là. Nous, on a fait un format encore plus grand. On a rajouté 2 ou 3 centimètres de chaque côté. Ça rappelait un peu, pour les plus anciens qui pourraient nous écouter, ça rappelait un peu le format du Jardin des Modes, très très ancien, hein, mais qui avait ce grand format-là, ou les Nouvelles Littéraires aussi, qui avaient un grand format comme ça. Et donc, on avait ce format un peu singulier.
Et ça
aussi...
permettait quoi,
oui,
justement
par... Mais ça permettait tout de suite de singulariser. C'était, voilà, tout de suite un supplément singulier par son format. Et ce qu'on n'avait pas peut-être calculé, mais qui finalement s'est révélé être un succès, c'est que les annonceurs, du coup, avec ces pages de pub sur ce grand format, se sont dit, mais c'est génial.
Donc, on va pouvoir s'exprimer.
Ah ben, formidable. Vous imaginez se former une pub sur un gros plan, sur un sac, sur un format comme ça, c'est extraordinaire. Et en fait, ça a répondu. Les annonceurs du luxe que nos équipes de la régie chassaient déjà pour le quotidien, ils disaient, bon, on viendrait bien dans les Échos, mais une reproduction sur un papier journal. À l'époque, ça se faisait pas trop quand même. Nous, on avait dans les Échos des publicités de rapports annuels, de résultats financiers, éventuellement de la Poste, de l'EDF, mais on n'avait pas de publicité du tout du luxe. Donc les annonceurs avaient dit, si un jour vous sortez un supplément, évidemment, nous, ça nous intéressera d'avoir, de toucher le public des Échos au travers d'un magazine luxe. Et donc là, ça a été tout de suite gagné.
C'est aussi, cette période-là, aussi la montée en puissance justement de la publicité des annonceurs mode luxe dans une diversité de médias, pas seulement chez la presse féminine finalement. Ils ont ouvert aussi leur horizon.
Exactement, vous avez raison. Ça leur permettait, eux, d'ouvrir un peu le champ des publics touchés. Voilà. C'est-à-dire que je ne vais plus m'adresser qu'à la femme qui lit le Elle ou qui lit le Marie-Claire, mais je vais m'adresser c'est peut-être à son mari qui va ouvrir ce supplément, ou peut-être à la femme d'affaires qui ne lit pas les féminins. Donc voilà, donc j'ouvre effectivement des perspectives beaucoup plus grandes.
Vous, ça a été aussi cette période-là, le premier contact que vous avez eu entre les besoins de publicité des groupes de luxe, les stratégies médias. Qu'est-ce que vous avez appris de cette période-là
Bizarrement, à l'époque, c'était moins vrai sur la fin de ma période. Il y avait, ça paraît peut-être bizarre ça aussi de dire ça aujourd'hui, mais il y avait assez peu d'échanges entre les équipes de la régie et la rédaction. Je dois dire que c'était même des gens qui se parlaient quasiment pas.
C'était isolé.
Oui. Aujourd'hui, ça paraît un peu bizarre de dire ça parce qu'on est dans l'interaction totale et notamment par le brain content. Mais à l'époque, moi, je devais avoir une réunion mensuelle où on me disait, bah voilà, dans ce numéro-là, il y aura tant de pages de pub. Bah, très bien. Je vais donc construire mon numéro à partir de ces pages de pub. Mais on me disait même pas, il va y avoir Dior page 2 et puis Saint Laurent page 10. C'était même pas le sujet. Ouais. Aujourd'hui, vous savez bien, comme moi, que on commence par là. On commence à construire un magazine en sachant quel est
des annonceurs. Oui. Justement, le brand content, vous êtes allé sur un nouveau métier finalement, oui. En 2016, en prenant la direction générale du pôle luxe de Pelham Media.
Oui.
Quelle était cette
Alors,
mission?
Alors en fait, Pelham Media, c'est une entreprise de brand content, de contenu éditorial, que le groupe Les Échos, Le Parisien a racheté début 2016, avec cette idée de se développer dans les contenus. En fait, ce qu'on a très bien vu émerger depuis maintenant quelques années, c'est effectivement le brand content, avec l'idée des marques qu'elles émergeaient plus facilement par des pages de brand content que par des pages de publicité classique. Et puis qu'il y avait une espèce de ras-le-bol chez les consommateurs de la page de publicité classique. Donc en tout cas, il y avait très clairement un format qui était en train d'émerger, qui était celui du brand content. Et un brand content de qualité, les Échos pouvaient pas se dire « je vais demander à mes journalistes de les écrire ». Donc il fallait trouver une structure ad hoc pour pouvoir écrire ces contenus-là. Et donc, ça a été l'idée d'acheter Pelham Media, dont c'est devenu l'une des activités, mais pas que. Donc, c'est également pour ce qui vaut également pour moi. C'est-à-dire que j'avais une partie de mon activité qui était effectivement d'écrire ou de faire écrire, de concevoir ces campagnes de brand content à destination des titres des Échos ou du Parisien. Oui. Mais par ailleurs, de faire aussi des stratégies éditoriales pour les entreprises. Là, totalement en dehors des Échos du Parisien. C'est-à-dire qu'on était aussi, on avait comme clients les grandes entreprises, et moi en l'occurrence j'avais comme clients les grandes entreprises du luxe pour lesquelles on réfléchissait à des stratégies de prise de parole.
Mais ce n'était pas forcément lié aux médias, c'était vraiment la manière dont...
Voilà. Mais on appelle ça quand même brand content. Ça porte, en fait, tout ça porte le nom de brand content puisque c'est du contenu qui émane d'une entreprise, d'une marque.
En 3 ans, 4 ans à la tête de ce pôle, quelles sont les grandes évolutions que vous avez vues? On voit que c'est de plus en plus présent quand même.
C'est de plus en plus présent. Oui.
Il y a des questions qui se posent du côté des journalistes, mais pas seulement du côté aussi des lecteurs, de savoir qu'est-ce qui est du journaliste, qu'est-ce qui est du brand content. Il y a quand même des informations très intéressantes. Il y a des portes d'entrée très intéressantes sur les marques.
Et puis pour le fait est que le travail qui a été fait, en tout cas moi, le travail que j'y ai fait mener pendant ces quelques années, est un travail qui est quasiment similaire au travail que je pouvais faire à la tête des rédactions.
Parfois avec des portes d'entrée plus faciles à pousser.
Oui, avec des portes d'entrée plus faciles à pousser, avec des angles d'attaque qui auraient pu être tout à fait des angles d'attaque journalistiques. Et d'autant plus que les marques, je crois, ont compris pendant ces quelques années, moi, où j'y étais, c'est que le meilleur brand content est le brand content qui ne parle pas de vous. Michelin. Mm-hmm. Bon, ça reste quand même l'exemple majeur,
historique,
on cite toujours en exemple, mais le fait est que c'est le meilleur exemple.
Oui.
Et les débuts du brand content, c'était plutôt « je voudrais qu'on parle de moi, mais d'une manière journalistique ». En fait, le brand content, c'est pas ça.
C'est pas un public reportage.
Non. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le conçois. Je suis American Express, je vais faire un article sur, les nouveaux désirs des millennials quand ils vont au restaurant. Et puis à la fin, je vais avoir une petite citation. La carte American Express vous permet de ceci, de cela. Mais l'article, il sera vraiment un vrai article journalistique sur... Il y aura eu une enquête. Ça, c'est du vrai brain content pour
et
moi.
Justement, quel est vous qui avez eu finalement les deux casquettes, oui. Mener une rédaction avec le contenu éditorial et mener les équipes qui vont proposer ces contenus brain content. Quel est l'avenir en fait de l'équilibre entre les deux? Comment vous
voyez c'est vrai que c'est une question qui peut se poser parce que moi, en tout cas, je l'ai fait avec la même rigueur journalistique. J'étais tout aussi sévère avec les plumes qui écrivaient pour moi sur le brain content que les plumes qui écrivaient pour moi aux Échos. Je pense que l'avenir, il est dans l'indication très claire de ce qui est, en tout cas, moi, c'était un peu mon combat, c'est-à-dire qu'il faut que les choses soient clairement identifiées. Ça, on ne fait pas le même métier. Même si on le fait avec la même rigueur, on ne fait pas le même métier. Donc, pour moi, c'est très clair dans ma tête. Mais effectivement, tant que ce n'est pas bien labellisé, il y a un risque de mélange des genres.
Et la place de la publicité, finalement, elle reste pertinente quand il y a du brain
content ? Oui, parce que je pense que, en fait, ça ne s'adresse pas au même public. En fait, la publicité s'adresse à vous, Olivier, acheteur. J'ai envie de m'acheter une montre, je vais regarder les publicités de montres. Le brain content, ça va s'adresser à vous, Olivier, acheteur éventuellement d'une montre ou d'autre chose, mais aussi Olivier peut-être papa, Olivier citoyen, Olivier qui aime le cinéma, qui aime peut-être voyager. Je m'adresse à vous dans la globalité de ce que vous êtes. Voilà.
Et pas juste sur le produit.
Et pas juste sur le produit que j'ai à vous vendre. Donc c'est assez subtil, mais c'est intéressant.
Oui, de travailler cette complémentarité.
Oui, exactement.
Sur le rôle finalement des différents médias, on voit que les médias traditionnels entre guillemets sont plus ou moins en délicatesse avec la crise actuelle, mais l'était un peu auparavant, montée en puissance des réseaux sociaux, de l'influence. Vous, comment vous voyez tout ça se composer ou se recomposer ?
Moi, je suis un peu inquiète et je suis un peu inquiète parce que je vois bien que la nouvelle génération ne lit pas de presse écrite en tout cas. Je suis bien passée pour le savoir. J'ai un fils qui a 24 ans, qui semble-t-il est très informé, mais n'ouvre pas de journaux alors qu'il y a pléthore de journaux à la maison. Donc, ce manque d'appétence pour la presse me navre, mais c'est un fait. Et puis, il faut bien voir aussi, en fait, ce qu'a vécu le luxe cette année avec toutes ces fermetures de boutiques dans le monde entier. La presse le vit, enfin, je veux dire, je vais assez peu en province, et pardonnez-moi, mais moi, j'ai cette vision parisienne de kiosques qui ferment tout le temps. Et donc, on a très bien vu que le luxe a eu du mal à survivre, à la fermeture des boutiques. Comment voulez-vous que la presse survive à la fermeture des kiosques ? Donc, c'est quasiment insoluble comme système. Donc, on peut évidemment basculer sur le digital, et tous les journaux ont fait des progressions sur le digital astronomiques, des progressions à trois chiffres, et tant mieux pendant cette période compliquée qu'on a vécue. Mais on sait très bien que un abonnement digital ne coûte pas la même chose qu'un abonnement print, que les revenus pour l'éditeur ne sont pas les mêmes, que les revenus issus de la publicité ne sont pas les mêmes, mais qu'en même temps, je vois pour le groupe dont je viens, Les Échos, Le Parisien, en face, vous mettez la même masse salariale parce qu'il faut les mêmes talents pour produire tout ça.
Voire plus, donc, parce qu'il faut aussi des talents techniques derrière.
Voilà, donc le point mort, il devient très, très compliqué à atteindre. C'est quasiment insoluble. Donc, je suis très inquiète, effectivement.
Oui. Et le rôle des groupes, bon, on parle du luxe ici, mais le rôle des groupes de luxe, certains créent leurs propres médias actuellement. Quel va être le rôle de ces groupes-là par rapport à l'avenir de la presse, dans lesquels ils annoncent et quelque part ils ont aussi besoin pour mettre en avant leurs produits.
Vous parlez des groupes de luxe qui sont actionnaires de médias ?
Pas forcément actionnaires, non, qui sont annonceurs ou qui potentiellement revoient leurs priorités.
Ah, leurs priorités, oui. Alors c'est vrai qu'effectivement on a vu pendant cette crise sanitaire que les investissements publicitaires ont diminuer un petit peu partout. J'espère que tout ça va reprendre son cours en 21. Vraiment, je l'espère très fort parce que je pense qu'on a effectivement un rôle à jouer. Tout secteur confondu d'ailleurs, hein, le luxe très certainement parce que c'est un très gros secteur annonceur, mais tout secteur confondu, on a un rôle incroyable de subvention de cette liberté de la presse, quoi. Je veux dire, voilà. Moi, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, moi, venant, ayant ce passé-là que vous connaissez.
Oui. Vous disiez, il y a cette pandémie qui a un impact énorme sur, sur l'activité économique. Vous, vous l'avez vécu d'une manière un peu particulière parce que justement, en mars donc, de cette année, vous avez pris de nouvelles fonctions dans l'univers du luxe, donc délégué général du comité Colbert. Qu'est-ce que c'était que cette prise de fonction finalement? Comment vous avez vécu cette prise de fonction?
C'était curieux parce qu'effectivement, on m'a... Donc moi, j'ai pris mon poste fin mars. Oui. Donc le confinement était déjà décidé, enfin acté depuis... on était tous déjà confinés depuis quelques semaines ou quelques jours. Donc on m'a livré un ordinateur et puis voilà, ça a démarré comme ça. Donc j'avais eu la chance de rencontrer très brièvement mes équipes 2 mois plus tôt, pendant le passage de témoins. Enfin, on avait eu une très courte réunion. Donc je peux pas vraiment dire que je connaissais les gens. Mais voilà, alors ce qui était curieux, j'ai eu en fait une chance et une malchance. La chance que j'ai eue, c'est que du coup, j'ai eu un temps incroyable pour pouvoir plonger dans les archives et m'imprégner de cette histoire du comité Colbert. J'ai eu un temps incroyable de dialogue avec les présidents qui étaient cloués à Paris, n'étaient plus dans les avions. Et je pense que je n'aurais pas eu cette chance-là.
De pouvoir avoir ces échanges-là.
Voilà, j'ai passé vraiment de longues heures avec tous mes présidents, en interaction, en comprendre ce qu'ils pouvaient attendre du comité Colbert.
Donc rappelons que comité Colbert, créé
en 1954, Jean-Jacques Guerlain, donc on est peu de temps après la guerre, donc il faut comprendre, Jean-Jacques Guerlain discute avec Lucien Lelong, qui est à l'époque président de la chambre syndicale de la couture, et les deux se disent ce serait bien qu'on crée une association où tout le monde serait à l'égalité, ce qui n'est pas le cas dans les fédérations, comme vous savez, donc là on serait à égalité de traitement, une entreprise, une voix, tout secteur confondu, mais dans le luxe, et il s'agissait à l'époque de recréer cette espèce de fierté d'avoir des maisons de luxe en France. Et donc, le comité Colbert voit le jour en 1954. Donc, Jean-Jacques Guerlain en prend l'initiative et en prend la présidence avec 14 membres fondateurs. Ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'époque, les grands du luxe étaient les arts de la table.
Oui.
Donc, comme quoi les choses ont évolué. Il y avait déjà Dior, il y avait déjà Chaumet, il y avait déjà des grandes maisons. Mais, par exemple, il y avait la Chaume, fleuriste. Oui. Mais les grandes maisons, c'était les Puy Forcat, c'était voilà, les grandes maisons d'art de la table. Et puis, donc, cette association, c'est une association, loi 1901, s'est fortement développée, donc jusqu'à aujourd'hui, où nous comptons 85 maisons de luxe. Mais toute l'originalité vient aussi du fait que nous avons à nos côtés aussi 16 institutions culturelles parmi les plus belles, puisque nous avons le château de Versailles, le Louvre, le musée des arts décoratifs, le château de Fontainebleau, l'opéra de Paris. Enfin voilà. Donc, et puis, depuis peu, nous avons intégré aussi 6 membres européens venus de pays où ils n'ont pas d'association du type du comité Colbert. Donc on leur assure, si vous voulez, une espèce d'asile en attendant que peut-être ça se structure dans leur pays.
Et racontez-nous, en fait, la mission finalement, ça reste la même, ça reste de faire briller l'aura du luxe français à l'international où il y a d'autres enjeux aujourd'hui en 2020
Ça reste effectivement l'une des missions, mais oui. Ça n'est que l'une des missions. Moi, ma première idée quand je suis arrivée, le premier objectif que je me suis fixé, qui a paru parfois un peu bizarre aux membres du comité Colbert, mais j'ai voulu qu'on se repose la question de à quoi sert le comité Colbert. Je pensais que, en plus avec la crise dans laquelle on était déjà plongé, il fallait se reposer cette question. C'était sain pour tout le monde.
Vous avez eu une réponse.
Et on a eu une réponse. Et ça a débouché sur une raison d'être qui maintenant nous guide dans toutes les actions. Et on a restructuré tout ça autour de cette raison d'être qui est celle-ci. Promouvoir passionnément, transmettre patiemment, développer durablement les savoir-faire et la création française pour insuffler du rêve. Donc, si on reprend tous les wordings de cette raison d'être, promouvoir passionnément, c'est évidemment cette idée de le faire rayonner à l'international. Donc ça, on continue. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort depuis l'origine, parce que depuis l'origine, il y a eu énormément... Alors peut-être que ça ne se sait pas, mais en fait, on a le comité Colbert a fait des grandes expositions du luxe français à l'international, au Japon notamment... quand aucune de nos maisons n'y était implantée. Il y a bien eu un jour une première maison qui était implantée, mais voilà, dans les années 80, on faisait déjà des grandes expositions au Japon, on en faisait dans l'Asie au sens large, on en faisait aux États-Unis. Donc, on a participé de cette exploration et de ce premier rayonnement du luxe français.
Ça continue, ça.
Ça continue. Oui, tout à fait. On a un projet dont je pourrais vous parler tout à fait tout à l'heure si ça vous intéresse. Donc, il y avait cette idée de promouvoir, voilà. Dans cette idée aussi de promotion, il y a aussi l'idée de protéger aussi ce secteur. Et donc, on est un acteur très fort dans la défense de la propriété intellectuelle. Et ça aussi, on est dans notre rôle de protéger cette propriété intellectuelle.
Concrètement, ça veut dire
quoi? Ça veut dire qu'on est très actif, c'est un travail d'influence.
Oui.
Donc, par exemple, sur la contrefaçon, qui est un sujet qui nous occupe malheureusement et qui ne cesse de nous occuper depuis les débuts, on a été acteur de premier plan de la loi Longuet sur la contrefaçon qui a vu le jour en 94. Et là, nous sommes très acteurs et très en pointe des négociations européennes sur le Digital Services Act. On a été très en pointe. On a eu de nombreuses réunions avec la Commission européenne sur le sujet. J'en ai encore une la semaine prochaine. Et là, on est très en pointe. On a même embarqué toutes les associations. Vous savez que le comité Colbert a créé une association européenne des associations.
D'accord.
Du comité Colbert qui s'appelle le CCIA, qui rassemble nos amis anglais de Walpole, les Allemands du Meisters Christ, les Italiens de la Fondazio Altagamma, les Espagnols des Circulo Fortuny. Et donc tous ensemble, nous, on a pris le lead dans cette bagarre pour le Digital Services Act. Et donc on a abouti à une position qu'on est allé défendre pour, en gros, responsabiliser les plateformes digitales sur l'idée qu'elles sont responsables des contenus qu'elles mettent en ligne.
Donc, et vous avez espoir que ces évolutions aboutissent à
On a très bon espoir.
Oui.
Toutes nos discussions, et encore il y a quelques semaines avec la Direction générale du marché intérieur, portent à croire que je pense qu'on va avoir beaucoup de satisfaction dans ce texte qui sort, qui devait sortir le 9 décembre, qui finalement sort le 15 décembre. Donc voilà, on a de bons espoirs. Et puis, de toute façon, le travail n'est pas terminé. Je pense qu'on continuera, même si le texte ne nous donne pas satisfaction. Donc ça, c'est très clairement une mission que l'on a. On est un acteur de l'ombre, de l'influence, de l'ombre. Donc ça, c'est pour toute cette partie rayonnement. Il y a toute une partie transmettre, donc transmettre patiemment. Donc là, c'est tout le travail qu'on fait pour cette transmission des savoir-faire. Donc nous avons une chaire d'enseignement à l'ENSAMA, qui est l'une des écoles. Donc on a fait le choix de l'ENSAMA. On aurait pu prendre d'autres écoles. On a fait le choix de se concentrer sur l'ENSAMA. Donc en fait, ça prend la forme de... chaque année, 6 de nos maisons proposent des sujets d'études aux étudiants de l'ENSAMA, qui donc pendant 3 mois travaillent sur ces sujets d'études, font des visites dans nos maisons de luxe pour aboutir à une présentation. Donc c'est soit un objet, soit... Enfin, ça peut prendre multiforme. Et puis ensuite, ils vont en stage dans nos maisons. Donc c'est vraiment un process complet. Et puis par ailleurs, moi, je fais beaucoup d'interventions dans les écoles.
D'accord.
Pour essayer de passer ce message-là,
de
la transmission.
Que la transmission soit,
oui,
là, qu'il y a des belles marques, des belles maisons en France qui peuvent leur apporter.
Et puis dire et redire que c'est un motif. Je pense qu'il faut qu'on insuffle ça dans la tête de nos jeunes, que c'est un motif de fierté française. Le luxe français doit être un motif de fierté. Que c'est un secteur qui est localisé en France.
Oui.
On a quand même 142 territoires de savoir-faire, avec des usines absolument partout. Il s'ouvre encore des usines en France. Hein. Vuitton, Hermès ouvrent régulièrement. À chaque fois, c'est 250 emplois, et 250 emplois durables. Généralement, on ne le dit pas assez, mais Vuitton et Hermès, en tout cas pour ce qui les concerne, pour ces jobs-là, qui sont des jobs de production, hein, je ne parle pas effectivement de vendeurs en magasin ou d'élèves de grandes écoles, mais on vient sourcer à Pôle emploi. Hein, c'est-à-dire qu'on vient
c'est la main-d'œuvre locale qui est formée.
Le luxe est un formidable débouché pour des main-d'œuvre sans qualification au départ. Donc ça, je pense qu'il faut le dire aussi. Et ensuite, ce sont des métiers durables. Ce n'est pas des usines qu'on va fermer après-demain, fort heureusement. Donc ça, je pense que c'est important de le dire et de le redire, de dire cette fierté-là, de dire qu'on est un secteur, on représente 30% du CAC 40, plus de 30%, même avant la Covid, on était à 27-29%. post-Covid, on est à presque 35.
Oui.
Donc c'est incroyable.
C'est un poids très important.
Il y a quelques années, on se félicitait d'avoir une industrie automobile, d'avoir une industrie aéronautique. Donc malheureusement, c'est plus le cas aujourd'hui. Bah, il faut se féliciter de celles qui brillent. Et
on
en l'occurrence, c'est le luxe.
Mmh. Ouais.
Donc on est vraiment dans cette idée de transmission des savoir-faire, et ça, on se démène beaucoup pour ça. Et puis le dernier maillon qu'on est venu ajouter là dans la raison d'être, c'est développer durablement.
Oui.
Et là, alors c'est une prise de conscience que le comité Colbert a eue de manière assez visionnaire, puisqu'on a fait un premier référentiel avec l'agence Vigeo de ce que devait être le développement durable dans les entreprises du luxe en 2000.
D'accord.
Donc moi j'ai des textes dans les archives
c'est fondateur.
De 2000 en disant le développement, le luxe, le développement durable et le luxe, ça doit pas être le développement durable de l'aéronautique ou de l'industrie énergétique ou de que sais-je. Donc il faut que ce soit un développement durable particulier. Donc on avait déjà mis, on avait tout été écrit.
Et ces grandes lignes là, elles ont été déjà un peu suivies.
Alors elles ont été suivies. Moi ce que j'ai initié dès que je suis arrivée, c'est que j'ai voulu savoir où en étaient nos maisons. Je voulais avoir cette espèce de photographie de dire finalement qu'est-ce qu'elles font nos maisons aujourd'hui. Et donc on a reçu tout un tas de fiches et j'ai été absolument subjuguée par ce que j'ai trouvé, parce qu'en fait elles font plein de choses. Enfin, franchement, je suis absolument épatée. Alors peut-être qu'on le dit pas assez, peut-être qu'elles-mêmes ne le disent pas assez. Donc cette année, enfin 2021, va être une grande année pour nous, pour le développement durable. On est en train de créer un comité d'experts au sein du comité Colbert et on va publier un livre blanc de tout ce que nos maisons font. C'est-à-dire qu'on va, par grand item de la RSE au prix au sens large, on va choisir lesquelles de nos maisons ont des actions spectaculaires et on va mettre ça en lumière, on va communiquer là-dessus. On va communiquer aussi sur ces territoires de savoir-faire dont je vous parlais tout à l'heure, parce que je pense que ça aussi, c'est important de redire que Emmanuel Macron appelle à relocaliser, mais nous, c'est déjà fait. On est déjà là.
Il y a
donc,
des équipes qui sont sur le terrain.
Le champagne est en champagne, ouais. Jusqu'à preuve du contraire. Le cristal, c'est dans l'Est. Là, la Cosmetic Valley, elle est là. On a quand même en France l'usine qui fait le flaconnage de 80% des parfumeurs du monde entier. C'est un truc de dingue, personne ne le sait. Le cognac est à cognac. Enfin, je pourrais démultiplier les exemples. Donc ça, il faut absolument qu'on recommunique là-dessus. Donc on a tous ces messages à faire passer. Et au-delà de tout ça, moi, ce que je voulais et qui a été acté à notre dernière assemblée générale, c'est que on s'inscrive dans les accords de Paris. Et que disent le luxe français est dans les accords de Paris et évidemment on va donner des rendez-vous intermédiaires pour tenir ce...
Est-ce que justement ce type d'engagement-là, ça va être un élément clé pour, je ne sais pas, faire partie du comité Colbert, dire vous voulez représenter le luxe français, il faut que vous validiez ces éléments-là.
Oui, jusqu'à présent ça ne l'était pas. Jusqu'à présent on était sur des valeurs autour de la poésie de l'objet, de ces savoir-faire. Il y avait quand même cette idée de réaliser une part conséquente de son chiffre d'affaires à l'international. Donc il y avait quand même cette idée d'être une maison qui rayonne déjà. Mais je pense qu'évidemment on sera sensible à ça et pour le moment c'est là où le collectif joue son jeu. Pour le moment, moi j'ai des tas de petites maisons chez moi qui ne mesurent pas leur empreinte carbone et qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc on va les aider. On va les aider, on va leur donner les bons interlocuteurs pour que courant 2021 tout le monde ait mesuré son empreinte carbone. Évidemment, je ne parle pas des maisons d'LVMH qui sont chez moi ou de Kering.
Ils ont déjà les outils.
Ils ont les outils, ils savent très bien faire. Mais c'était en fait, le comité Colbert, c'est cet effet d'entraînement. C'est là où le collectif est important. C'est là où le comité Colbert joue tout son rôle, quoi, tout son... Voilà.
Justement, ce qui est intéressant et peut-être la grosse difficulté, quand je regardais entre l'hôtellerie de luxe, effectivement, comme vous disiez, la cristallerie, les marques de luxe, le champagne, ou le cognac.
On est sur 14 métiers. C'est très compliqué.
C'est énorme, c'est compliqué d'avoir une ligne directrice finalement. Est-ce que tout ça, ça dilue pas finalement les messages?
On va essayer de s'entendre sur des troncs communs. sur des grands items et d'essayer d'embarquer tout le monde. Mais effectivement, la grande difficulté, c'est comme quand on me dit comment va le luxe, j'ai dit comment voulez-vous que je vous réponde ? J'ai chez moi des hôtels qui sont fermés, des traiteurs qui n'exercent plus, des restaurants qui sont fermés. À l'inverse, j'ai des grandes maisons internationales qui dont les chiffres d'affaires sont stratosphériques en Chine. Je suis incapable de vous donner la photographie du luxe français. Elle n'existe pas. J'ai mes des maisons de champagne qui sont touchées par la fermeture des hôtels et des restaurants. Moi, il se trouve que j'ai les plus belles maisons de champagne, donc qui sont pas vendues en grande surface. Donc, elles n'ont pas cette possibilité de se refaire une santé en grande surface. Donc, c'est très compliqué, effectivement, d'être sur 14 métiers. Et en même temps, c'est une force incroyable. C'est-à-dire que on est effectivement cette photographie du luxe français. Voilà.
Ces 14 métiers-là ont forcément été impactés par la oui. crise actuelle. Comme vous le disiez, certains rebondissent plutôt bien parce qu'ils ont une activité, notamment en Chine. On a peu de touristes qui sont quand même des gros consommateurs de luxe en France. On a des prévisions de flux touristiques assez faible pour les prochaines années.
En tout cas, pas de visibilité.
Pas de visibilité, en tout cas. Comment les acteurs du luxe se projettent par rapport à ce nouvel environnement, finalement, qui n'était pas leur quotidien ?
C'est clairement un des enjeux de cette crise sanitaire. Bon, on a l'enjeu digital, on a l'enjeu RSE, mais on a l'enjeu de reconnexion avec la clientèle locale. Alors, quand on dit clientèle locale chez nous, c'est plutôt, on va plutôt la prendre européenne, sous une acception européenne. Les maisons ont quand même été heureusement surprises à la sortie du premier confinement de trouver des consommateurs français qui étaient au rendez-vous. Donc ça a été une heureuse surprise. Ça n'a évidemment pas tiré la consommation et ça n'a pas suffi, évidemment, puisque quand on sait que le tourisme américain, en gros à Paris ce qui nous manque ou en France ce qui nous manque, c'est les Américains et les Chinois. On est d'accord sur ce constat-là. C'est les élites shoppers qui nous manquent.
Ils consomment quoi ? Enfin, ça représente quelle part finalement, si on doit donner un
peu de tourisme. Le tourisme, c'est les trois quarts. Et chinois plus américain, on est probablement sur plus de la moitié de ces trois quarts. Donc effectivement, il nous manque beaucoup. Mais là où pour ces grandes maisons, elles rattrapent d'une certaine manière la chose, parce que ce qui n'est pas dépensé, et c'est ce qu'on a vu aussi en France, ce qui n'est pas dépensé dans les billets d'avion pour venir et ce qui n'est pas dépensé dans l'hôtellerie, est finalement dépensé aux États-Unis. Moi, j'ai des maisons qui cartonnent aux États-Unis actuellement, malgré l'épidémie qui repart en flèche. Voilà, ils consomment côte est, ils consomment côte ouest, ils consomment même sur quelques grands marchés, Texas, à Dallas, exactement. Mmh. Donc en fait, ce qui n'est pas dépensé dans les billets d'avion, et ça vaut aussi pour la Chine, c'est-à-dire que je pense que nos maisons rattrapent sur Main China à peu près 75% de ce qui aurait été dépensé.
Justement, je voulais vous poser la question là-dessus. Il y a eu plusieurs études, notamment celle de Bain qui est sortie, qui annonce que en 2025, 60% de la consommation de luxe serait réalisée en Chine, 80 peut-être % de la consommation par les consommateurs chinois.
Alors, il faut distinguer la place de la Chine et des consommateurs chinois. Voilà, on est sur deux chiffres un peu différents, mais il est vrai que la Chine va devenir c'est-à-dire que la géopolitique du luxe va s'inverser. On était sur États-Unis premier, Europe deuxième, Chine troisième, et ça va riper. La Chine va devenir premier, et les États-Unis et l'Europe vont probablement jouer un jeu à peu près égal, voire une petite tête d'avance pour les États-Unis.
Pour les États-Unis. Ouais. Et justement, par rapport à ce basculement, comment les marques de luxe qui font partie du comité Colbert, comment elles anticipent ça ? J'imagine qu'elles l'anticipent. Peut-être à 5-10 ans et qu'aujourd'hui elles doivent le traiter aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça a comme impact dans leur organisation ?
Alors moi je suis pas dans les maisons, donc j'aurais un peu de mal à vous répondre sur concrètement en termes d'organisation dans les maisons. Ce que je vois, mais ce que vous voyez probablement vous aussi en tant qu'observateur avisé, c'est l'extrême agilité dont elles ont fait preuve pour moi, je vois les chiffres de Tmall, les chiffres des grandes plateformes chinoises, où là, ils ont fait le plein des grandes marques occidentales. Je veux dire, toutes celles celles qui regardaient un peu l'œil de travers ces grandes plateformes, bon, bah, aujourd'hui, elles y sont toutes.
Oui, on voit les deals avec Farfetch qui
va pouvoir s'implanter là-bas. Oui, voilà, le grand deal Farfetch Richemont qui vient d'être annoncé. Et je pense que je lisais l'autre jour un article très intéressant sur le grand du digital demain, il n'existe pas. Effectivement, le Spotify du luxe, il n'existe pas, il est encore à créer. Donc tout ce qu'on va vivre dans les mois à venir va être passionnant à suivre, parce que je pense qu'effectivement, on est très loin d'avoir vu tout ce qui va arriver.
Vous le disiez tout à l'heure, vous avez des choses quand même dans les cartons pour 2021, malgré tous les grands points d'interrogation.
Oui, alors nous, ce qu'on avait prévu, en fait, on fait chaque année ce qu'on appelle un Festival Colbert. Alors le Festival Colbert, c'est nos maisons. Nous recevons à Paris les grands clients de nos maisons. Pour 3 jours de ce qu'on appelle dans notre jargon les expériences Money Can't Buy. Donc voilà, vous ne les trouverez pas en magasin, mais on les a créées pour vous. Et ce qui est fabuleux, c'est la force du collectif, c'est que nos maisons s'allient entre elles pour créer des expériences. Donc les groupes sont mélangés, les secteurs d'activité sont mélangés, et tout le monde accepte de parler avec tout le monde.
Oublie les rivalités, là.
Ah oui, mais je dois dire que ça, c'est je fais juste une petite parenthèse. Au comité Colbert, tout le monde parle à tout le monde. Les rivalités, elles restent dans la cage d'escalier. Il n'y a pas de rivalité. Voilà. Et je dois dire que c'était ma première et très belle surprise de découvrir que pendant cette crise, singulièrement, les maisons partageaient les soucis. Moi, j'ai fait des réunions avec les DRH de toutes les maisons, qui étaient très en demande parce que toutes confinées chez elles. Alors, je dis toutes parce que c'était beaucoup de femmes. Confinées chez elles et ne sachant pas si elles prenaient les bonnes décisions. Et moi, j'ai assisté à des réunions absolument génialissimes où les DRH de nos grandes maisons conseillaient les DRH de nos petites maisons en disant « Non, mais là, t'as pas bien fait. Là, tu devrais appeler l'inspection du travail. Là, il faut faire comme si... » Ça encore, c'est incroyable. Ça, c'est le comité Colbert.
Ça, c'est utile. Voilà.
Ça, c'est utile parce que là, la réunion se conclut, on se dit... Là, on a été utile. Le comité Colbert a été utile. Et donc effectivement, il y a pas de querelle. On est tous, on est tous derrière le luxe français. On est la loi du français. Donc, c'est Festival Colbert. On reçoit nos grands clients et on fait vivre 3 jours de. On leur en met plein les yeux, en fait, pendant 3 jours. Donc, il était prévu un Festival Colbert pour nos clients chinois là en novembre.
D'accord.
On l'a transformé et on lance une plateforme sur WeChat en début d'année prochaine.
Ce sera pour quelle période ?
Et donc, ce sera pour avril. En fait, on va profiter l'année prochaine en Chine. C'est l'année franco-chinoise du tourisme culturel.
D'accord.
Et donc, on va surfer sur cette année-là. Il va se passer des choses en Chine.
Donc, il y aura du physique là-bas et du WeChat aussi.
Donc, il y aura du. Alors, pour le moment, essentiellement du WeChat, tant qu'on peut pas aller en Chine, on sait pas trop. En fait, on n'est pas les bienvenus, clairement, pour le moment. Donc, on va lancer cette plateforme en Chine. On a recruté quelques key opinion leaders pour promouvoir cette plateforme. Et l'idée de cette plateforme, c'est de montrer la diversité de nos savoir-faire. Et c'est comme une promenade dans la France des territoires. Donc on a un petit ox, puisque l'année prochaine, c'est the year of the ox.
Oui.
Donc on a dessiné un petit ox, on a fait travailler quelques artistes chinois. Et on leur a fait dessiner des petits ox. Et donc on va pouvoir balader un petit ox dans les savoir-faire français. Donc ça, très clairement, on a switché en digital.
Oui, vous êtes adapté.
On s'est adapté.
Vous avez accéléré les projets digitaux.
Et on a accéléré les projets digitaux.
Sur l'ensemble de l'année, vous avez d'autres projets qui...
Alors, sur l'ensemble de l'année, on a ce projet donc, de prise de parole sur le développement durable qui va occuper toute une partie du premier semestre. Sur la fin de l'année prochaine, on a un nouveau Festival Colbert, en croisant les doigts pour qu'on puisse le faire. Là, à destination des clients européens.
D'accord.
Donc là, effectivement, on se reconnecte sur la clientèle locale européenne. Et puis, on fera un petit clin d'œil à nos amis anglais en espérant que le Brexit aura sa solution d'ici là. On croise les doigts. Et puis, sur cette fin d'année, nous lançons un nouveau site Internet qui sera en ligne fin décembre. Donc, voilà. Et donc là, vous trouverez tout plein d'informations sur le luxe. L'idée, c'est d'en faire une espèce de plateforme d'informations sur le luxe français.
Bon, les auditeurs ont l'occasion de le découvrir parce que au moment de la diffusion du podcast, ça devrait être en ligne.
Ce sera en ligne, je l'espère.
Donc, ce sera parfait. Ils pourront aller voir ça. Bélénique Stépinet, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'avoir participé à ce podcast. C'est ainsi que nous concluons cette session. Merci de l'avoir suivi et à très vite pour de nouvelles écoutes.